podcast France Culture.
Et vous écoutez France Culture. Il ne faut pas nous dissimuler plus longtemps la vérité, quelque pénible et quelque étrange qu'elle soit. La France est un pays hanté. À tous les points du territoire, il se produit des choses incompréhensibles et mystérieuses. Alfred Capus. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'aventurera ce soir à la suite de Philippe Baudouin dans les très riches archives de la France hantée, celles des apparitions mariales et des guéridons volants, des dégurgitations ectoplasmiques et des cuillères distordues d'Uri Geller. Philippe Baudouin publie en effet aux éditions Hubbuck Apparitions, un livre somptueux et passionnant sur près de 2 siècles d'histoire paranormale de la France. Il est ce soir notre invité, chronique en second temps d'émission, signé Sixtine Aubert et Jean-Luc Rivera. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre qui n'a jamais autant mérité son nom, puisqu'il sera question ce soir de ce qui fait plier de rire les uns et mourir d'angoisse les autres, le parapsychique, le paranormal, la France hantée, cela grâce à quelqu'un qui œuvre pour cette reconnaissance depuis bien longtemps, et notamment à l'antenne de Mauvais Genre, et on le remercie, c'est Philippe Baudouin. Bonsoir Philippe Baudouin.
Bonsoir François.
Alors Philippe Baudouin, on vous suit régulièrement, à chaque événement Baudouin, on est là. Alors moi j'ai même pris la je me suis laissé habiter par Camille Flammarion récemment dans une soirée dans la qui a eu lieu à Paris à la chapelle des positivistes.
La chapelle de l'humanité.
La chapelle de l'humanité. Non, on vous suit avec attention.
Et je vous en remercie.
Et c'est largement mérité. On va voir à quel point d'ailleurs avec ce livre dont chez Hubbuck qui s'appelle Apparitions au pluriel. Bonsoir Sixtine Aubert.
Bonsoir cher François.
Vous avez déjà eu des apparitions vous?
Alors non, je n'ai pas eu d'apparition, mais c'est vrai que je suis très sensible aux histoires de fantômes et que comme certains des protagonistes de votre livre, j'aurais tendance à projeter à mon tour ou à peut-être moi-même créer ma situation, ma propre hantise à partir de suggestions que l'on m'aurait placées. Donc suis une froussarde, mais j'aime les fantômes.
Ben voilà, c'est ça, je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Comme disait qui déjà? Qui est-ce qui disait ça, monsieur Rivera? Ah, ça y est, premier quiz de la soirée.
C'était la suivante de Marie-Antoinette, si je me souviens bien.
Voilà, effectivement. C'est une dame du XVIIIe siècle, dont le nom va vous revenir.
Madame du Deffand.
Voilà, absolument. Ben, bienvenue aussi. Mais alors vous, chaque fois qu'on parle d'apparition, vous vous matérialisez.
Ah oui.
Dans le studio, là, ce soir, c'est normal que vous soyez là.
Je ne résiste jamais.
Un expert en ufologie, en fortéanisme, c'est-à-dire dans la science des phénomènes inexplicables. Et là, vous donnez votre crédit au livre de Philippe Baudouin.
Ah, tout à fait, absolument passionnant. On en reparlera, mais l'iconographie est extraordinaire.
Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un livre. Voilà. Savez, Philippe Baudouin, c'est toujours minimum 2 livres par trimestre. Et là, il y en a un deuxième qui s'appelle « Surnaturel ». Au féminin pluriel, une histoire visuelle des femmes médiums chez Pyramide. Extraordinaire livre. Parce que ça, ces photos de femmes médiums, c'est vraiment, pour celles qui s'intéressent à l'histoire de la condition féminine, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, bienvenue dans Mauvais Genre, bienvenue au pays des fantômes. Mais avant cela, bien sûr, Céline Duchesnay est avec nous. Alors, elle va se matérialiser, elle aussi, avec son invité. Et Céline, ce soir, de qui s'agit-il?
Bonsoir François, il s'agit de la photographe Estelle Chaigne.
Bonsoir, bienvenue dans notre studio de Photo Spirit. Je vais vous demander de vous mettre à l'aise, enlevez vos manteaux, voilà, vous pouvez les poser là sur la table. Et vous allez pouvoir vous installer dans les sièges qui sont juste ici, en face à la lumière. Voilà l'appareil photo duquel je vais me servir, qui est donc une chambre photographique qui va du coup permettre qu'on fabrique une image sur un papier photographique qui est là contenu dans le châssis photo. Je vais l'installer. Voilà, au moment où je vais ouvrir le châssis, je vais vous demander de fermer les yeux. Cela pendant 2 minutes, ça va nous permettre d'avoir le temps déjà que l'image se crée, parce que c'est une technique qui demande du temps de pause, et ça nous permettra d'avoir le temps pour les esprits, s'ils ont envie de se manifester sur l'image, d'apparaître. Je vous dirai quand vous pourrez rouvrir les yeux au moment où sera terminé. Pendant ce temps-là, ma petite machine sonore sera comme une matérialisation sonore de ce qui se passe, de l'activité dans la pièce. Eh bien, à tout à l'heure.
Estelle Chaigne a créé un studio argentique qui revisite la pratique spirite, son titre « Le troisième œil ». C'est une manière pour elle de rendre hommage à ses photos spirites dont elle apprécie l'esthétique et l'intention, le travail de deuil et ce nouveau rite pour se dire au revoir. À l'occasion de l'exposition de Philippe Baudouin qui s'était tenue à la maison Auguste Comte à Paris, elle a installé son studio un soir dans une des salles. Le public est venu, intrigué, se faire prendre en photo dans les conditions de la toute fin du 19e siècle. Les esprits aussi étaient au rendez-vous. Ils sont apparus, invisibles dans un premier temps, puis révélés par l'acte photographique sous une forme vaporeuse. Ici, Auguste Comte, là, Allan Kardec, David Bowie et même Michael Jackson. Pour l'avoir testé avec Laurent Polleré, c'est Agnès Varda qui est soudainement apparue sur notre photo derrière nos deux corps immobiles aux yeux fermés. Et pourtant, nous pensions être seuls. Estelle Chaigne est passionnée par l'acte photographique, surtout argentique. Dans sa pratique artistique, elle aime créer des dispositifs qui mettent en jeu et en scène l'acte photographique. Comme par exemple, cet étrange stand de tir. Après tout, s'amuse Estelle Chaigne, le vocabulaire du tir et de la photo est bien le même. On tire une photo comme on tire avec une arme.
Un peu comme avec la photo spirit, je vais visiter le stand de tir photo. Donc j'ai créé avec une amie, Élise Guillard, qui est artiste, nous avons créé un stand de tir photographique direct, c'est-à-dire qu'on tire à la carabine à plomb dans une boîte qui est en fait un sténopé, un appareil photo. L'impact du plomb crée l'ouverture de la lumière et donc permet à l'image de se créer. La trajectoire du plomb est exactement le même que celui de la lumière et donc va venir transpercer l'image qui va porter la trace de l'impact à l'endroit même du fusil, donc à l'endroit de notre visage ou de notre œil. Du coup, il y a sur l'image, ce qu'on voit apparaître, c'est nous tirant sur nous-mêmes. Un truc un peu métaphysique que je trouvais très drôle. Ça s'appelle « Tire-toi », du coup. Voilà, nous ça m'amusait que les gens viennent se tirer le portrait tout en se tirant dedans, mais de manière drôle. J'ai pas envie que les gens se suicident, c'est pas l'idée. Mais il y a quand même une sorte de petite mort à l'image, mise à mort, que je trouve intéressante en fait dans le rapport de cette envie en fait de se voir à l'image. Du coup, ce truc un peu paradoxal. Je veux me voir et en même temps je me tire dessus, puis en même temps ça m'efface même de l'image. Bref, à partir de ce stand-là de photos et dans mon exploration des différents types de plomb qui existaient, je me retrouve à demander à mon père, qui est chasseur, va voir ce que ça donne, son fusil de chasse, je savais pas, et là je découvre que en fait, c'est des grenailles. Je connaissais pas du tout cette technologie, cette technique-là. Ce sont des cartouches avec plein de plomb et ça fait des gerbes. Et donc du coup j'ai commencé un projet qui s'appelle Mitraille, qui donc consiste à déplacer le geste de chasseur vers des grands sténopés que je fabrique moi-même, qui font à peu près 1 mètre sur 60, donc ça fait des grands écrans. Donc c'est là-dessus qu'ils sont invités à tirer dans les paysages qu'ils traversent pendant leur session de chasse. Et là, on déplace le geste vers cet endroit-là pour faire une production de paysage diffractée. Et en même temps, quand après on regarde l'image, elle est criblée de plomb, elle est criblée de trous. Et parallèlement, elle est très douce parce que toutes les petites images s'en mêlent les unes aux autres comme une espèce de constellation. Le temps se dilate complètement alors que l'acte même de la fabrication de cette image était extrêmement violent, était dur. Et là, dans la contemplation de l'image, on est complètement ailleurs. On est dans un temps qui est complètement distendu.
Pour retrouver le travail d'Estelle Chaigne, rendez-vous sur son site www.estellechaigne.com ou sur son compte Instagram. La photographe est actuellement en résidence au Centre d'art Le Village, à Bazouges-la-Pérouse, en Ille-et-Vilaine, où elle exposera en juin. Elle y montrera la suite de son projet Mitraille, également Les Passeurs de Feu, son film sur les mains des coupeurs de feu, et organisera des performances photographiques participatives, notamment Self Fire, autoportrait au flash magnésium.
Merci Céline pour cette entrée Estelle Chaigne de notre encyclopédie pratique des mauvais genres, accompagnée de quelques cris d'oiseaux. Philippe Baudouin, Estelle Chaigne, quelques aperçus, votre vision de cette artiste?
C'est une très belle rencontre puisqu'on a eu l'occasion de la faire venir pour le vernissage de l'exposition Fantographie, dont j'étais le commissaire avec Emmanuel Fructus à la maison d'Auguste Comte il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Et elle fait un travail vraiment formidable en réutilisant des appareils photographiques de la fin du 19e pour créer à son tour de magnifiques photographies spirit où elle réussit à faire surgir sur la pellicule des nuées de visages qui viennent nimber comme ça les personnes qui prennent la pose pour elle.
Très bien, écoutez, merci Philippe. Et puis donc je rappelle bien évidemment que depuis maintenant 2 jours, à Tarbes, vous pouvez voir l'exposition « Mauvais genre » ou « La beauté convulsive », donc une exposition entièrement consacrée à l'univers déployé depuis toutes ces années par Céline Duchesnay en ouverture de « Mauvais genre ». Donc tous à Tarbes, bien évidemment, et c'est jusqu'au 7 mai 2022. Mais pour l'instant, on va rejoindre l'univers d'Estelle Chaigne. On va rejoindre celui de Philippe Baudouin, place aux apparitions. C'est la musique choisie méticuleusement par Laurent Polleret pour la playlist surnaturelle de ce soir dans Mauvais genre. Alors Philippe Baudouin, vous êtes vraiment l'homme par qui le scandale arrive depuis toutes ces années, puisque vous êtes celui qui travaillait essentiellement sur toutes ces questions, mais il y a des gens qui travaillent, évidemment, on peut citer Nicole Edelman avec un livre que je recommande à tous chez Albin Michel, on peut citer aussi Philippe Charlier, mais vous donnez à voir tout cela. Et c'était déjà le cas avec l'exposition sur le gendarme Tisanet, le grand livre que vous lui avez consacré, étonnant personnage, aux éditions du Murmure. Vous nous avez même entraîné dans un hôtel particulier, non loin de Pigalle, qui est le lieu le plus hanté de Paris.
La maison Frochot,
la hantise faite maison. On a également, grâce à vous, pu entendre une séance d'exorcisme. Donc, il y a une volonté quand même de témoigner et d'apporter, non pas des réflexions conceptuelles, bien que, puisque vous êtes quand même universitaire, vous travaillez aussi sur Walter Benjamin, un livre qui sort au mois de mars chez Alia, je crois, sur l'œuvre radiophonique de Walter Benjamin.
C'est la réédition, en fait, de mon ouvrage Walter Benjamin au micro, qui ressort aux éditions de la MSH au mois de mai prochain.
Ils ont des sciences de l'homme. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et il y a la volonté de montrer. Alors, quelle est un petit peu la stratégie et puis la passion?
L'idée, c'était, pour ce qui est d'apparition et de surnaturel, les deux ouvrages que vous venez de présenter rapidement, il y avait cette idée de faire, à mon tour, de refaire l'enquête, d'ouvrir les dossiers pour chaque phénomène inexpliqué abordé et d'essayer de faire la part des choses, évidemment, entre la part de l'illusion, de l'hallucination, de la crédulité peut-être de certains, et en même temps de l'objectivité des événements. Et l'objectivité de ces événements, souvent, elle va passer par le biais de l'iconographie. Alors après, il y a peut-être aussi le regard de l'esthète que je porte aussi sur ces images que je considère pour la plupart d'entre elles vraiment comme des œuvres à part entière. Et il y a une véritable passion aussi pour l'iconographie qui se retranscrit là-dedans, avec toujours cette volonté de souligner l'aspect judiciaire et scientifique des travaux qui vont être menés entre le 19e et le 20e siècle sur cette fameuse question des apparitions.
Parce que c'est ce qui caractérise un petit peu l'esprit de vos recherches. Vous vous intéressez, je dirais, autant aux médiums, à ceux qui voient, à ceux à qui il arrive quelque chose, qu'à ceux qui sont là pour observer, pour enquêter, pour dépister. Il y a une sorte, vous mettez en scène des couples, vous ne mettez pas en scène de façon un peu fétichiste et idolâtre le médium à tel. mais toujours un face à face. C'est oui, ça qui est intéressant.
C'est l'interaction vraiment qui m'intéresse à chaque fois dans tous les dispositifs que j'ai essayé de présenter, de relater, parce que ce sont des récits vraiment d'enquête où il y a une rencontre, la plupart du temps assez improbable, qui se produit, comme c'est le cas par exemple à Lourdes.
Oui.
Le premier témoin des apparitions, objectif, officiel, c'est un commissaire de police. C'est le commissaire Dominique Jacomet. Et donc il y a cette rencontre avec cette gamine, Bernadette Soubirous, qu'on ne présente plus, et puis cette institution qui est face à elle, et elle reste droite dans ses bottes, Bernadette, pour raconter effectivement les apparitions auxquelles elle assiste déjà depuis des semaines et des semaines.
C'est une enquête en quelque sorte très foucauldienne, hein, puisque vous faites en quelque sorte une sorte d'archéologie des médias, c'est-à-dire une histoire des usages qui n'ont pas été retenus, alors que on a retenu une histoire des usages dominants, ceux qui ont été, disons, acceptés par le pouvoir en place, tant les médecins. Mais là, on a des médias qui sont aussi des médiums, et donc c'est une histoire de ces usages, disons. Oui, peut-être sous-estimé.
Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans ces phénomènes, et surtout dans ces enquêtes, hein, j'insiste bien sur ce terme-là, c'est le problème du savoir improuvé. Hein, l'idée qu'il y a une tradition officielle qui est celle de la science, qui est celle effectivement du monde judiciaire, qui va s'emparer et surtout se confronter à des phénomènes pour lesquels elle n'a pas forcément tout de suite de méthode adaptée. Et c'est cette adaptation, cette confrontation, ce dialogue qui va s'instaurer entre par exemple une médium, entre des témoins et des représentants officiels. C'est cette relation-là qui se noue à cet instant qui, moi, m'a vraiment intéressé, a fortiori où ce moment va produire aussi de la documentation, de la paperasse, pour le dire. Il y a la bureaucratie qui est là, quasiment omniprésente dans toutes ces affaires, qu'on soit du côté de l'Église, qu'on soit du côté de l'État, qu'on pénètre dans certains laboratoires comme ceux de l'Institut Métapsychique International. À chaque fois, il y a un foisonnement incroyable de documents et, pour autant, paradoxalement, on les a occultés, sans faire jeu de mots, on les a écartés d'investigations dites sérieuses. Et donc, ce que je propose dans ces ouvrages, c'est une relecture de ces enquêtes-là, à ma manière aussi, avec la philosophie. J'ai suivi un cursus universitaire en philosophie de l'art, et c'est aussi la prise en considération, la prise au sérieux, d'une manière objective, de ces documents, toujours avec ce souhait de les confronter pour essayer, non pas de réécrire l'histoire, mais d'enquêter à mon tour sur ces phénomènes.
Oui, médium, média, médiatisation, Jean-Luc Rivera, on a affaire à des phénomènes singuliers, intimes, et en même temps qui brusquement commencent à se faire connaître, à rayonner dans la presse, dans la radio quand la radio existe, plus tard à la télévision, voire même à créer des spectacles de télévision. Donc c'est aussi l'histoire de toute une diffusion.
C'est l'histoire de toute une diffusion, mais surtout, je trouve que ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on constate qu'il y a deux époques, quelque part. La première époque, c'est celle de ce qu'on a appelé la métapsychique, où les plus grands esprits de leur temps, hein, on a des prix Nobel comme Charles Richer, comme Pierre et Marie Curie, Bergson, etc. Les plus grands esprits scientifiques et philosophiques de leur temps se passionne pour ça.
Avec une grande audace.
Et avec une grande audace, et en utilisant les techniques qu'ils utilisent dans leur laboratoire. Mais on a l'impression que c'est une époque à laquelle tout est encore possible. On vient de découvrir les rayons X, etc. Donc, des pouvoirs encore méconnus, ça n'a rien d'impossible. Donc, je trouve que ça, c'est absolument fascinant, ce que vous mettez en valeur là, et justement qui ensuite sera occulté.
Oui, parce que tout cela va se déliter. Surtout, on va remarquer qu'il y a un point de bascule, un moment charnière qui se produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'on peut expliquer pour deux raisons principales. La première, c'est effectivement tous les liens qu'on va souligner entre l'hitlérisme et les sciences occultes.
C'est quand même Planète, le matin des magiciens, c'est 1960.
Oui,
c'est quand même 15
certes,
ans de vide.
Certes.
Disons,
mais c'est quand même important de le mentionner, en tout cas de mon point de vue. Et puis, il y a aussi toutes les campagnes campagne de presse à charge contre les médiums, contre les différentes traditions de l'occultisme, avec effectivement des journalistes dont on a oublié le nom aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des sceptiques érudits, mais extrêmement fermes et sévères dans leur jugement et leur critique dans les colonnes de presse de l'époque. Ouais. Je pense à Paul Heuzet, par exemple, qui était à la fois expert en illusionnisme, lui-même prestidigitateur, et surtout quelqu'un qui mettait un point d'honneur à déconstruire entièrement les différents procédés qui étaient mis à l'œuvre par les médiums, notamment, jusqu'à, on va dire, commander ou ordonner des expertises avec Henri Pierron, par exemple, au laboratoire de physiologie de la Sorbonne. Donc, c'est des gens, effectivement, qui vont inciter, pousser les savants à interroger ces phénomènes-là, mais en même temps, toujours avec cette volonté de déconstruction, voire, à certains moments, de destruction totale aussi.
Alors un livre pareil, Apparition chez Houellebecq, Philippe Baudouin ne se fait pas sans rien, loin de là, puisque vous privilégiez bien sûr le contact visuel, le presque tactile, l'expérience directe du lecteur. Quels sont les fonds que vous utilisez pour arriver à illustrer pareil propos? Parce qu'effectivement, c'est richissime quand on voit les crédits d'illustration à la fin, c'est énorme. Il y a des fonds internationaux, vous allez dans le monde entier pour essayer de trouver, vous appelez un fonds, dire est-ce que vous avez une photo de je ne sais plus, Zappia Paladino 1912 à tel endroit, ou au contraire vous regardez et puis vous choisissez?
C'est pas aussi simple et rapide que
oui, j'imagine.
Malheureusement non, en fait c'est un travail de fourmi de près de 6-7 ans de recherche à avoir continuellement ses doigts remplis de poussière, ses mains remplies de poussière, et puis beaucoup de patience et essayer de localiser effectivement les différents centres de ressources d'archives en France, principalement pour ce qui est de l'ouvrage Apparition, mais pas uniquement, des collections privées, parce qu'il y a un petit circuit aussi d'amateurs de ce genre de photographie dans le domaine du spiritisme, de l'occultisme, et puis des archives auxquelles on pense pas forcément, comme les archives Camille Flammarion, grand astronome, grand vulgarisateur scientifique devant l'éternel, le frère du célèbre éditeur, évidemment, et qui, à côté de ses activités dans le domaine de l'astronomie, s'est intéressé pendant des dizaines d'années à cette question du spiritisme. C'est quelqu'un qui a invité à plusieurs reprises la médium italienne Zappia Paladino, justement pour organiser à son domicile rue Cassini, mais aussi dans la salle Galilée de son observatoire à Juvisy-sur-Orge, des séances de lévitation de table pour comprendre expérimentalement, scientifiquement, la nature de ces phénomènes. Donc il y a les archives Flammarion de Juvisy, et puis il y a aussi une grande partie des images que l'on doit au fond assez incroyable de photos de l'Institut Métapsychique International, qui depuis 1919 est une fondation reconnue d'utilité publique, qui est toujours placée aujourd'hui en 2022 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ça on ne le sait pas, hein. Et ce qu'il y a d'assez formidable là-dedans, c'est que c'est un centre de parapsychologie assez incroyable qui a dans ses archives des dizaines et des dizaines de clichés relatifs à des expériences menées avec plusieurs médiums depuis sa création, depuis les années 20.
Sixtine Audebert.
Et donc, ce sont des fonds que vous avez compulsés en fan en même temps, puisque je pense que ça. Est-ce que vous en êtes venu finalement à cette connaissance aussi du terrain, puisque quand on arrive, il doit y avoir une masse de documents. Comment on discerne, comment on travaille, et quelle est votre méthodologie? Et vous avez une formation universitaire, mais je pense qu'il y a aussi une part d'amateurisme profond.
Oui, il y a une grande passion pour ce type d'image. Il y a beaucoup de patience, de minutie, et puis il y a quand même aussi une méthode. Il y a une rigueur. ailleurs, effectivement, quand on se retrouve face à ces archives, il faut aussi préalablement avoir réuni toute une documentation sur tous les types d'affaires qu'on va vouloir étudier. Et par chance, dans cet institut, l'Institut Métapsychique, les dossiers sont quand même assez bien rangés. Et on peut retrouver, par exemple, sur l'affaire de Rudi Schneider, un médium autrichien qui avait, soi-disant, le pouvoir de déplacer à distance des objets par la force de la pensée.
1930-1934.
Exactement, qui va travailler avec un médecin qui à l'époque, justement, fait partie de la direction de l'Institut Métapsychique, Eugène Hosty. Eh bien, on va retrouver des photos stéréoscopiques dans les dossiers qui vont venir étoffer les comptes rendus, les procès-verbaux. Donc, on repère par année effectivement les documents, on passe beaucoup de temps, des journées entières à fouiller, et parfois, dans une petite enveloppe, eh bien, on trouve ce genre de clichés et d'images.
Miracle, Jean-Luc Rivera. Vous qui êtes un grand chineur.
C'est vrai que c'est il y a toujours le plaisir de fouiller dans les archives. Et là, vous avez d'ailleurs sous-titré votre livre Apparition, Les archives de la France hantée. Moi, je l'aurais plutôt sous-titré Les archives de la France enchantée. Parce que à travers cela, il y a d'une part bon le rêve qui est, il y a le rêve. Parce que quand on se dit qu'en 1901, deux Anglaises pouvaient voyager dans le temps et rencontrer Marie-Antoinette dans les jardins du Petit Trianon, ou qu'on pouvait matérialiser des ectoplasmes et qu'on pouvait en faire des moulages, pour moi, on rentre dans le rêve.
On entre dans le royaume du merveilleux scientifique. On est vraiment dans ce domaine-là, effectivement, avec cette dimension complètement fantastique. Hein. On retrouve le réalisme fantastique de Berger-Powells.
Oui.
Hein. Quand même, rendons à César ce qui est à César. Mais grâce à l'image, encore une fois. Et effectivement, cet émerveillement, il est à l'œuvre, pas forcément dans tous les chapitres, puisqu'il y a aussi beaucoup d'histoires sombres, quand même, qui sont réunies dans ce volume. Je pense à cette question des grêles de pierre, notamment dans le sanatorium d'Arcachon, du docteur Queneau en 1963, et puis aussi la fin tragique de Pierre Curie, qui était extrêmement impliqué.
Qui n'est pas lié à des phénomènes paranormaux, hélas.
Non, mais
un accident affreux.
Mais très impliqué à cette même période dans l'expertise de Zappia Palladino, qui était cette médium qui, des semaines et des semaines durant, va à la demande d'Henri Bergson, de Marie Curie, de Darsonval, d'Édouard Branly, se soumettre à l'expérimentation, dans un hôtel particulier, hein, l'Institut Général Psychologique, et il va y avoir toute une série de comptes rendus qui vont être produits à ce moment-là. Pour juste terminer sur la question des archives, justement, dans cette méthode que vous pointiez tout à l'heure, Sixtine, il y avait aussi l'idée, tout simplement, de retrouver les archives correspondantes à chaque personne impliquée dans les expériences. Et dans les expériences autour de Zappia, avec Bergson, avec les époux Curie, on trouve un certain Julian Okorowicz, qui est un Polonais d'origine, philosophe de formation, écrivain également, qui va beaucoup s'intéresser à la psychologie. Et donc, par chance, j'ai réussi à retrouver la trace de ces papiers en Pologne, dans une ville de Pologne. Et dans les archives, il y avait toute une liasse de documents et une enveloppe de 70 photos. Et j'avais effectivement l'envie de retrouver des photos inédites. Et lorsque j'ai consulté ces documents, je suis tombé sur un des clichés très connus de ces expériences avec Bergson, avec Branly, etc., où l'on voit Zappia avec un tabouret en lévitation. Bon, et c'est une photo stéréoscopique. Sur la droite de la photographie, vous avez un cliché qui est énormément reproduit dans les ouvrages de l'époque. Et sur la gauche, presque par magie, qui voit-on debout faire face à Zappia dans une robe noire, elle est très connue à l'époque pour porter cette robe-là, et ce regard, ces cheveux grisonnants, c'est Marie Curie.
Ça,
donc une photo inédite de Marie Curie dans ces documents.
L'institution scientifique et justement le monde des médiums. Cela dit, pour clore sur ce sujet des archives, Philippe Baudouin, c'est quand même des phénomènes exceptionnels, des phénomènes qui relèvent de l'intime, qui créent quand même une situation sociale assez particulière pour les médiums. Donc on pourrait imaginer qu'il y a une stratégie du secret, du repliement, de l'occultation de la personne. Alors là, pas du tout. Au contraire, il y a presque comme une espèce de demande de photographie, ça génère du visuel à n'en plus finir. Il n'y a pas du tout de volonté de dire, non, là, il se passe des choses qui dérangent l'ordre et la sécurité du monde. Non, au contraire, venez montrer, photographier, tester, vérifier, on y va, c'est parti.
Mais c'est étonnant, quand même. Tout simplement en raison de cette logique probatoire à laquelle souscrit la tradition du spiritisme. Et ça, c'est la grande distinction qu'on peut établir entre le dogme chrétien, la foi qui ne se prouve pas, et d'un autre côté, le spiritisme qui recherche éperdument cette preuve matérielle tangible qui permettra à la fois d'authentifier le discours de Kardec, le codificateur du spiritisme, effectivement, cette croyance en la communication avec les morts, et en même temps, qui permettra aussi de faire œuvre de persuasion, de propagande par la suite, pour montrer par l'image la réalité de ces phénomènes occultes.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
François Angelier qui reçoit ce soir dans Mauvais Genre avec Sixtine Audebert et Jean-Luc Ribeira, Philippe Baudouin pour apparition chez Ebec. Alors, livre richissime et richissimement illustré, Philippe Baudouin, 12 dossiers. Vous êtes un homme de dossiers, donc 12 dossiers. Le premier, 1826-1829, et le dernier, 1974-1978. Le premier, c'est une vision mystique, entre guillemets, d'une croix à la verticale du ciel, et l'autre, c'est les affaires d'Uri Geller, le célèbre l'homme qui faisait se tordre, non pas de rire, mais se tordre les cuillères à la télévision française, et que moi-même, en mon jeune temps, j'ai pu voir. Et donc, 12 dossiers qui sont chaque fois, je dirais, une sorte de photographie instantanée d'une certaine France de l'époque. Alors la croix, les deux premiers, la croix lumineuse de Migné, c'est sous la Restauration, 1826-1929, donc catholicisme, religion d'État, loi sur le blasphème, là véritablement un cléricalisme catholique extrêmement puissant. Après Lourdes, 1858, Second Empire, là les choses ont quand même un peu bougé. Vous commencez par deux manifestations qui relèvent, je dirais, du surnaturel religieux et de la mystique catholique. Là, on n'est pas encore, c'est 1848, la naissance de la religion spirite aux États-Unis, oui, c'est Fox, mais là, on est encore, je dirais, dans le catholicisme rural, traditionnel, paysan et...
Mais quand même spectaculaire.
Mais quand même, bien sûr.
Quand même spectaculaire avec cette question effectivement de la figuration de l'invisible. C'est ça qui est proposé à travers ces événements, ces phénomènes-là. Je pensais que lorsque le projet est né justement de cet ouvrage, qu'il ne fallait surtout pas écarter cette tradition de la mariophanie, des apparitions mariales pour ce qui est de Lourdes. Surtout lorsqu'on intitule un ouvrage apparition, c'était quand même dommage et peut-être en tout cas en même temps important pour montrer justement qu'il y a une tradition en France de ces apparitions. Aussi consacré, comme vous le disiez, à une autre question, toujours dans cette tradition chrétienne de l'apparition, mais un peu moins connue, avec la croix lumineuse de Migné. Un phénomène lumineux, atmosphérique, qui a été observé par à peu près 2000 personnes en 1826, en décembre 1826. Donc, il y a d'un côté, effectivement, ces apparitions religieuses, et d'un autre côté, ces apparitions païennes, ces apparitions spirites, où on retrouve quand même ce même motif et cette même rencontre rencontre entre, d'un côté, effectivement, les témoins, les acteurs, les actrices, comme les médiums, notamment ces femmes qui se disent depuis la tradition du somnambulisme magnétique et puis la naissance du spiritisme aux États-Unis.
Avant, il y avait quand même eu Mesmer, il y avait quand même...
Il y a une continuation, un prolongement aussi, du moins dans cette relation au fluide psychique, à la capacité de se faire se propager comme ça autour des corps de ces femmes, des énergies radiantes. Hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pierre et Marie Curie vont beaucoup s'intéresser à cela, avec aussi, évidemment, en tête cette idée de la radioactivité, celle des rayons X, etc., tout cet imaginaire scientifique qui va aussi soutenir et encourager, enthousiasmer ces chercheurs sur ce type de phénomène. Mais oui, il fallait, selon moi, effectivement, absolument parler de ces questions, mais toujours sous un angle un petit peu, en faisant un pas de côté et en essayant, pour ce qui est de Lourdes, de s'intéresser au cas du commissaire de police. Et puis, pour ce qui est de Migné, un physicien protestant, pas catholique, mais protestant, qui va être missionné, justement, pour donner son regard objectif et critique sur ce type de phénomène.
On l'écrit Vera.
Ce qu'il y a, c'est que effectivement, on observe à travers les différents chapitres, on observe aussi l'évolution du rôle du médium, parce que à partir des sœurs Fox, donc, et des débuts du spiritisme en 1850, on a une première partie où ces médiums, qui sont principalement des femmes, il y a quelques hommes, mais ce sont principalement des femmes, ça leur Il y a une sorte, n'ayons pas peur de le dire, mais d'industrie. Ce sont des femmes à qui cela permet de vivre et parfois même de bien vivre, parce que les séances, il faut bien le souligner, les séances sont payées. Il y a un certain nombre de généreux donateurs qui font venir donc Eusapia Palladino et toutes les autres. Elles font des séances. C'est pas gratuit.
L'équivalent de plusieurs milliers d'euros à l'époque.
Oui, et ce sont des sommes qui sont très importantes. Elles gagnent très bien leur vie pour des femmes qui sont. Parfois, Eusapia Palladino, c'était une paysanne.
Oui, originaire des Pouilles.
Voilà, originaire des Pouilles. Elle a gagné de l'argent et une exposition qu'elle n'aurait jamais pu espérer avoir.
Alors ça, justement, de l'argent et l'exposition, c'est la thèse de Nicolas Delman, que c'est la voix, une des rares voix qu'ont les femmes pour se faire entendre.
Oui, parce qu'à partir du moment où elles prennent la parole, elles prennent le pouvoir quelque part, en s'asseyant autour de cette table, en se mettant en scène aussi, il faut pas le nier, c'est l'occasion pour elles de s'émanciper, de gagner en autonomie et d'accéder à un rang social qui leur était interdit jusqu'alors. Donc ça, c'est un moment, d'un point de vue politique, social et culturel, déterminant dans l'histoire de ces femmes médiums, oui.
Elles donnent même elles imposent leurs propres conditions aux savants.
Exactement.
Ça, c'est extraordinaire.
Elles dictent leur loi, presque. Voilà. Oui.
Sixtine.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous notez aussi, par exemple, très souvent, la teneur érotique des clichés, avec une qualité véritablement subversive de ces mises en scène féminines. Et on pourrait aussi dire que, finalement, c'est aussi désespérant de voir que des femmes vont encore tomber au début du 19e siècle sous les coups d'un witchcraft act. Bon, évidemment, elles se revendiquent sorcières, mais quelque part, on se dit que la société n'a vraiment que ça.
Oui, c'est des clichés, alors, au sens étymologique du mot, pornographique. C'est-à-dire des corps qui se mettent en scène et qui s'expose, on va dire.
Oui, et puis il y a cette relation au corps médiumnique, au corps de la femme qui est dénudée. Il faut savoir que les codes justement de la représentation de la nudité à l'époque de Marthe Béraud, par exemple, pour citer Marthe Béraud, cette autre médium française, pour ce qui est de son histoire et de son parcours, son ancrage géographique, va justement se soumettre totalement aux exigences des expérimentateurs masculins. C'est la question du regard masculin, en fait, qui est aussi posée dans ces images, parce que qui prend la photographie, la plupart du temps, c'est également un homme. Donc, il y a une relation à la fois au corps, à la représentation visuelle de ces femmes qui se posent, et qui, d'une certaine manière, je trouve, de par cette préfiguration de la pornographie, représente une sorte d'ancêtre du peep show, presque. Hein, il y a une question du voyeurisme aussi qui se pose, clairement, selon moi, dans cette représentation du corps du médium.
Thank you.
question quand même étonnante, Philippe Baudouin. Douze chapitres dans votre livre, qui vont, je répète, de la restauration à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. et là, quand même, les chapitres 4 à 9, il y a ce qu'on appelle le bloc de la Troisième République, puisqu'on commence en 1899 pour terminer, évidemment, Troisième République en 1934. Et là, moi, j'ai été fasciné par l'espèce de, comme le disait Jean-Luc Rivera, l'espèce de naturel, de sincérité, d'engagement profond, je dirais, de l'université française avec ses élites, ses mandarins, ses moyens, face à ce sujet qui est celui de la parapsychie, du métapsychique et de la médiumnie. Puisque tous les savants qui se penchent sur la question, qui mettent leur temps, leur intelligence, leur réflexion, leurs moyens, les moyens de leur laboratoire au service de cette enquête, ce sont les plus grands savants de l'époque. C'est le couple Curie, c'est Richer, qui va être prix Nobel de médecine en 1913 pour recherche sur l'anaphylaxie. C'est Exactement. Le docteur Dumas, qui est un des plus grands psychiatres du XXe siècle. Dumas, oui. C'est Pierron. Mais c'est vraiment l'élite, je dirais, de la science française qui, très naturellement, avec véritablement un engagement fort, se met au service de cette question. Il y a quand même là quelque chose de très, très étonnant, puisque ce sont quand même les fonctionnaires d'une république qui est laïque, qui est athée, qui est positiviste, qui est la plupart du temps anticléricale. Et malgré tout, il y a une revendication à l'égard du paranormal.
Avec la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905.
Le paranormal n'est pas la religion. D'accord, mais quand même.
Oui, mais effectivement, il y a aussi effectivement 1905 qui vient séparer l'État des églises, et donc il y a aussi cet arrière-plan de la laïcité. Et en même temps, je pense que surtout, au-delà de la question de la croyance, de la religion, il y a une opportunité qui se présente aux yeux de ces hommes et de ces femmes, de ces savants, qui vient leur permettre de prolonger leurs travaux sur l'invisible. Je parlais tout à l'heure des radiations, voilà. des rayonnements. La question du rayonnement à la fin du 19e siècle, elle est de premier ordre. Et donc, si l'on parvient à expliquer de manière rationnelle, expérimentale et scientifique qu'il existe, ou qu'il existerait en tout cas un pouvoir des médiums d'irradier leur environnement, que cette forme de rayonnement pourrait agir sur la matière par la force de l'esprit, et qu'on parvienne comme ça, ce que Flammarion appelait les forces naturelles inconnues, d'expliquer ces rayonnements-là, ce serait une prouesse incroyable, une révolution
Donc,
scientifique.
Donc il y a continuité entre, je dirais, le dur, les sciences qu'on enseigne à la Sorbonne, au Collège de France, chez La Breuil, tout ça, et puis, je ne peux pas dire le mou, mais enfin, le marginal, l'underground, c'est-à-dire la médiumnie. Il n'y a pas de rupture entre les deux, ça c'est quand même étonnant.
C'est étonnant, et en même temps ça s'explique par le biais de la méthode expérimentale qu'on va essayer d'appliquer à ces phénomènes avec tout cet arsenal technologique incroyable, tous ces appareils de mesure qui vont être mis à profit d'une expérience dite parapsychologique à l'époque, qu'il y ait ou pas d'ailleurs de médium dans l'histoire. Donc effectivement, la question de l'invisible et de la radiation va permettre d'établir ce lien entre d'un côté ce qu'on va appeler le spiritisme, ou plus généralement les phénomènes occultes, les phénomènes psychiques, et de notre côté la science officielle dure, sévère et exacte.
J'évoquais ce bloc de la Troisième République et les heures, les très riches heures, les heures fastes de la France entière après l'après-guerre. Alors il y a le chapitre, on en avait déjà parlé, une émission donc sur le gendarme Tisanet, mais qui déborde largement l'occupation, sur les poltergeists, mais pendant l'occupation 43-44. Et après, il y a plus que deux cas, enfin vous avez peut-être beaucoup d'autres, mais vous avez choisi deux et non pas 5-6. C'est Alain Cuéneau avec le sanatorium d'Arcachon en 63 et Uri Geller, vedette de la télévision, en 74-78. Là, comme le disait Jean-Luc Rivera, cette continuité s'est rompue et on est plus dans le cirque et le music hall que dans la recherche fondamentale, malgré quand même le réalisme fantastique, le succès européen de Planète, le matin des magiciens, réponse Philippe Baudouin.
Oui, parce que tout simplement, les médiums ont déserté le terrain. Les femmes médiums ont choisi, pour certaines, effectivement, de retourner, de privilégier leur vie personnelle, de changer, du tout pour le tout, en fait, du jour au lendemain. Et effectivement, en raison de ces campagnes de presse aussi à charge, qui les ont humiliées, qui ont fait d'elles des femmes objets aussi, ces scientifiques qui les ont soumises à toutes sortes de tests de contrôle extrêmement invasifs. À un moment donné, il y a eu un choix, une prise de responsabilité de la part de ces femmes, et puis un refus de ce spectacle, d'entrer ou de cautionner ce genre de système. Et en même temps, donc, en raison de tout cela, il y a eu aussi une réappropriation par le show business, l'entertainment, ouais. Notamment télévisuel, etc., etc.
J'ai souvenir quand même d'Uri Geller, c'était pas très spectaculaire. On voyait la caméra filmer en gros plan une cuillère légèrement incurvée. Oh, merveille, merveille. Je me souviens même d'avoir vu, soit avec Dalida, le comte de Saint-Germain. Enfin,
ah oui.
On était quand même dans le cirque assumé, là, Philippe Baudouin.
Là où ça devient un peu plus troublant, c'est à partir du moment où, durant ces émissions en direct, où Uri Geller se produit, parvient à remettre des montres en état de fonctionnement alors qu'elles étaient en panne, à tordre des fourchettes, des cuillères. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est le moment où le standard explose et où effectivement les gens à l'époque disent c'est miraculeux quasiment. Je viens de faire la même chose qu'Uri Geller. Effectivement, ça fonctionne chez moi. Ma fourchette s'est tordue, ma montre marche à nouveau. Donc c'est à partir de ce moment-là où tout bascule effectivement et il y a une sorte de contagion psychique comme ça qui réussit, qui agit littéralement.
Pour terminer, Jean-Luc Rivera.
Oui, et ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que Uri Geller, effectivement, clôt en beauté la période des grands médiums, parce qu'on est revenu à ce qui se passait avant, c'est-à-dire des effets extrêmement spectaculaires. Il va se soumettre quand même à un certain nombre d'examens scientifiques, hein, les expériences sur le métal à mémoire de forme que lui va déformer et qui restera déformé, ça reste là. Et il réussit à soulever l'enthousiasme et ensuite, mais une fois de plus, même avec des résultats parfois spectaculaires et on pourrait dire, alors bon, ça c'est peut-être mon côté un petit peu rêveur, moi je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui sont assez probants, et ben tout retombe à plat.
Et puis surtout, ces trois adolescents, parce que je me suis moins intéressé au cas d'Uri Geller qu'aux trois adolescents, effectivement, dont j'avais retrouvé la trace à travers toute une collection de Polaroid, où on les voit justement reproduire les phénomènes de torsion de métal d'Uri Geller, qui sont des expériences qui ont été supervisées par des parapsychologues de l'époque, et puis des photographies de la pensée, où on voit des formes lumineuses comme ça apparaître sans raison apparente sur l'image.
Apparition de Philippe Baudouin aux éditions Houellebecq, deux siècles d'histoire de la métapsychique, du spiritisme, deux siècles d'histoire de la France Santé, également très très étonnant, les surnaturels au féminin pluriel, une histoire visuelle des femmes médiums, c'est aux éditions Pyramide. Chronique maintenant dans Mauvais Jean, mais toujours dans les parages des phénomènes exceptionnels approchés par Philippe Baudouin dans Apparition. Avec vous, Sixtine Audebert, on commence par ce film de Vincent Leport, Bruno Rédal. Alors on connaissait Pierre Rivière, moi Pierre Rivière, qui assassinait mon père, ma mère, ma frère, mes sœurs. Mais là, c'est une affaire à peu près équivalente, dans une époque oui, un peu similaire.
C'est ça, la transition est parfaite aussi avec les livres de Philippe Baudouin, puisqu'il s'agit d'un fait divers qui a lieu dans le Cantal du début du XXe siècle. Alors on peut pitcher ce film sans trop craindre des révélations, puisqu'il s'ouvre sur un récit rétrospectif et sur une scène de décollation. Donc Bruno, qui a 17 ans, est séminariste et il est en train de décapiter son camarade, son voisin de 12 ans. Et c'est une scène où il n'y a pas de bruit, filmé en contre-plongée. Son visage est parcouru par un rictus qui est un rictus à la fois d'effort mais aussi de jouissance. Et donc, à partir de là, il va se rendre après chez les autorités et il n'éprouve aucun remords. Et c'est là que, évidemment, ça va susciter l'intérêt à l'époque du grand Alexandre Lacassagne, le père de l'anthropologie criminelle, qui va venir sonder la psyché de Bruno et il va lui demander de réaliser pour les besoins de l'enquête une sorte de journal intime où le garçon va consigner donc toute son enfance et jusqu'au moment des faits. Et donc c'est un film qui est porté par une très belle voix littéraire, puisque le jeune homme fait preuve visiblement, était très bon élève, et fait visiblement preuve d'un talent et d'un certain style. Et c'est un film qui, malgré tout, paradoxalement, donc s'attache à décrire une forme d'impossibilité à communiquer, hein, lorsqu'on est confiné dans l'abrutissement des campagnes du début du XXe siècle, avec une famille très rigide, une forme d'alcoolisme, et qu'il est soumis à un traumatisme, donc un double traumatisme avec une double scène primitive, non seulement un meurtre rituel du cochon qui va effectivement être une scène insoutenable pour l'enfant, et le viol d'un pâtre dans la montagne, deux excitations que l'enfant ne peut pas interpréter, ne parvient pas à enregistrer, et qui vont le persuader qu'il est lorsqu'il se trouve dans des situations d'excitation similaires, dans des envies qui confinent au meurtre. Ça donne lieu à un film qui est un film aussi sur une erreur finalement assez candide de ce jeune Bruno qui va aboutir à ce meurtre qui ressortit d'une logique implacable qu'il faut absolument faire ce meurtre pour se sortir de ce destin et puis pour en sortir il faut aussi rentrer au séminaire et là évidemment dans cette société cette homosocialité du séminaire la pulsion va prendre beaucoup d'ampleur et on a beaucoup de scènes d'onanisme et puis lors de la projection deux personnes sont sorties de la salle au moment des meurtres et au moment de diverses scènes mais c'est aussi un film qui est très lumineux très resplendissant il y a des scènes d'érotisme très 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 belles des échanges de regard entre garçons où on entend en voix off la voix perturbée du jeune homme qui dit qu'il désire labourer de son couteau le visage de celui qu'il regarde avec tant de tendresse. Voilà, donc c'est un film extraordinaire que je vous recommande fortement. C'est le premier film de Vincent Leport. Il a déjà été projeté en festival. Si vous l'avez loupé, vous pourrez le voir le 23 mars en salle.
Voilà, ça sort le 23 mars, mais on en reparlera peut-être quand il sortira en DVD, qui sait. Merci de nous avoir signalé ce film qui va tout à fait dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, Monsieur Rivera. Vous êtes venu avec les maîtres des jeans. On continue.
Le maître des jeans de Fenderson Jelly Clark, qui est un auteur dont je vous ai déjà parlé, parce que pour moi, c'est l'une des nouvelles plumes les plus talentueuses qui soit apparue ces dernières années. Et après, donc, Les tambours du dieu noir et Ring Shout, dont je vous ai parlé ici même, voici le premier roman, presque 500 pages, de cet auteur, qui nous ramène dans ce Caire de 1912, qu'on avait déjà découvert dans deux de ses novellas auparavant, et donc, et où se côtoient sans trop de friction anglais et français, le peuple égyptien de toutes les confessions possibles et imaginables, et puis surtout les djinns qui se sont révélés au monde et qui, grâce à leur génie en ingénierie et en technologie, ont propulsé l'Égypte de 1912 au premier rang des nations civilisées. Alors, justement, voici que réapparaît le mystique soudanais Al-Jaiz, celui qui avait disparu une cinquantaine d'années auparavant, après avoir ouvert la brèche entre les mondes et donc permis aux djinns de revenir. Et après avoir tué une vingtaine de membres d'une des sectes de ses admirateurs, il va se semer le désordre dans toute la ville. Alors ça va nous permettre comme ça de retrouver la très élégante et compétente agente Fatma, qui est enquêtrice au ministère de l'alchimie des enchantements et des entités surnaturelles, ainsi que plusieurs de ses collègues qu'on avait déjà rencontrés. Alors, entre ses problèmes sentimentaux et ses enquêtes, les deux se mêlant d'ailleurs intimement, Fatma va avoir fort à faire, d'autant plus qu'elle doit maintenant travailler en binôme avec une autre agente. Donc Clark, avec ce format roman, là, a le temps de nous expliquer et de nous faire découvrir toute la complexité de ce monde où se mélangent technologie, magie et religion, où aussi l'égalité des genres et des races reste encore à faire. C'est un but encore lointain. Donc, quand aventure, culture et finesse sont en rendez-vous, il faut surtout pas faire la fine bouche.
On répète le titre, Le Maître des Djinns.
Maître des Djinns de Fenderson Jelly Clark à l'Atalante.
Voilà, un auteur d'ailleurs qu'on espère bien interviewer. Un jour, on termine cette émission avec Christophe Beer.
À ses premiers noirs et blancs vénéneux jusqu'au pop décadent de la fin des années 60, succéderont les ruines du cinéma bis sur lesquelles Jess Franco bâtit une œuvre de plus en plus libre. Il s'épanouit dans les budgets anémiques, débarrassé des contraintes narratives. Il s'agit moins de construire un récit que de rêver le film en le tournant, de l'improviser au gré des acteurs et des décors. C'est avec des producteurs pingres, dès l'instant où il leur fournit de la nudité, que Franco expérimente avec le plus d'audace. Il enrichit le catalogue fauché d'Eurociné, la boîte la plus désargentée des Champs-Élysées, d'œuvres fascinantes comme Shining Sex, qu'Artus Film édite en Blu-ray. Réalisé en 2 semaines en avril 75, simultanément au désinvolte Midnight Party près de Montpellier, il en reprend l'idée de départ, une danseuse de cabaret kidnappée. Mais les ravisseurs sont cette fois une femme mutique, créature d'une autre dimension, et son serviteur opaque, qui enduisent son sexe d'une substance brillante pour l'envoyer tuer dans l'extase ceux qui menacent de dévoiler leur existence. Dans les igouras hôteliers conçus par Jean Balladur à la Grande Motte et les chambres épurées au papier peint géométrique, le cinéaste capte la nature agressive de l'op art, comme le note Stéphane Duménildo dans sa présentation du film. Il en sourd une angoisse, saturée par le souffle du vent, les ressacs et les craquements bruyants d'une bande-son oppressante. L'emprise d'une force supérieure sur une femme rappelle d'autres Franco, comme Miss Muerte ou Necronomicon, et l'étreinte fatale évoque la vampirique comtesse noire qui vidait ses victimes de leur fluide sexuel. À la caméra voyeuse répond le corps exhibitionniste de Lina Romay qui se convulse, bouche écarquillée, yeux révulsés, propageant des ondes orgasmiques. Incarné par Franco lui-même, le clinicien médium les ressent à distance, à son tour au bord d'un spasme. À coups de zoom réitéré, de gros plans frontaux, on dit que Franco prend littéralement possession de sa muse, qu'il filmera jusqu'à sa mort, à chaque étape de sa vie, inépuisable chant d'amour de 40 ans. Dans Shining Sex, la nudité de Lina Romay l'engloutit. Cette autre dimension qui s'ouvre avec insistance, s'offre à l'exploration, envahissant toute la largeur du formascope et la vulve glabre de l'actrice, l'autre pli de la terre évoqué par les dialogues. Il n'y a pas 2 victimes de son sexe brillant, mais 3, avec le cinéaste qui construit sa mise en scène autour de cette seule béance, entraînant dans les transes de son objectif les spectateurs eux-mêmes.
Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Grégory Wallon, Claire Poissignon, Céline Duchesnet, Claire-Martin Dugard, Sixtine Audebert, Jean-Luc Rivera, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission.